Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions.
L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato.
Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato.
On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour ce nouvel épisode du podcast, c'est Florence derrière le micro. J'ai interviewé Manon, ostéopathe, spécialisée dans la prise en charge des pathologies féminines. Nous avons discuté ensemble pour savoir quand consulter un ostéopathe, sur quels symptômes de l'endométriose l'ostéopathie peut agir, quels en sont les bénéfices et les limites. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Manon, bienvenue sur le podcast Chronique de Mapato. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Écoute, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter et de nous raconter un petit peu ton parcours professionnel.
Ouais. Bonjour Florence, merci de m'inviter justement sur ce podcast. Du coup, je m'appelle Manon Letourneau, je suis ostéopathe spécialisée en gynécologie. Mon parcours professionnel, j'ai été diplômée d'ostéopathie en 2018. Je suis allée directement après avoir obtenu mon bac, donc directement au CEA, école d'ostéo. Et dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé de me spécialiser dans l'approche du corps féminin et dans tout ce qui est troubles plutôt gynécologiques, sexo. Et donc j'ai fait des formations complémentaires à ce sujet. J'ai fait 3-4 formations pour vraiment être sûre et avoir pas beaucoup de connaissances, parce que pendant les études, je trouvais justement que ça manquait pas mal sur la sphère gynéco, sur les pathologies gynécologiques. Et justement, en faisant les formations complémentaires, je me suis rendu compte à quel point en ostéopathie, on pouvait justement être bénéfique.
D'accord. Et rappelle-nous, du coup, ça dure combien de temps les études d'ostéopathie ?
Ça dure 5 ans.
5 ans, d'accord. Oui. Et du coup, tu rentres sur concours ou
c'est Alors justement, non, c'est tu rentres sur dossier et entretien avec des personnels de l'école. Et c'est des écoles qui sont privées.
Voilà. D'accord, ouais. Et donc du coup, c'est fou parce que tu vois, du coup, j'ai interviewé déjà quelques professionnels de santé là pour le podcast, et à chaque fois, on note ce défaut de formation sur les pathologies gynéco et notamment sur l'endométriose. Et encore un exemple de plus. Bon, après, c'est chouette que tu aies pu faire des formations complémentaires pour pouvoir te perfectionner. Ok. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà cette discipline, l'ostéopathie?
Oui, donc l'ostéopathie, c'est une discipline qui vient des États-Unis. C'est une approche thérapeutique manuelle douce qui se fonde vraiment sur une vision holistique globale du corps humain, mais à la fois physique du corps humain, mais aussi psychologique. C'est-à-dire que pendant une séance d'ostéopathie, on écoute aussi la personne, ce qu'elle nous dit, on prend en compte son contexte biopsychosocial, on appelle ça, donc c'est son environnement. Quel travail elle fait, comment sont ses relations sociales, l'histoire de sa famille, ses activités. Donc voilà, on ne se concentre pas que sur l'aspect physique, on évase vraiment les champs, et tout en ayant, ça reste quand même une approche thérapeutique manuelle. On soigne le corps, mais on prend en compte tout l'environnement de la personne.
D'accord, tu parles de vision... Oui, tu parles de vision holistique.
Oui, c'est ça. Holistique, alors c'est... holistique, c'est l'inverse de allopathique. Tu vois, par exemple, la médecine générale aujourd'hui, qui, comme elle est pratiquée en France, c'est une médecine allopathique. C'est-à-dire que tu vas aller voir... Si tu as mal à l'estomac, tu vas aller voir le gastro-entérologue. Si tu as un souci au niveau articulaire, tu vas voir le rhumatologue, le spécialiste des articulations, le spécialiste de l'estomac, le spécialiste des reins. Alors que l'ostéopathie, tu peux venir pour n'importe quelle partie de ton corps. On prend vraiment en charge tout. Donc c'est holistique. Et c'est aussi holistique au sens large, dans le sens où on ne fait pas que le physique. On prend aussi en compte, comme je t'expliquais, l'environnement de la personne.
Bon, la globalité, quoi.
La globalité, exactement.
D'accord. Et pour justement consulter un ostéopathe, est-ce qu'il faut être adressé par son médecin traitant? Est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance? Est-ce qu'il est possible d'avoir une prise en charge financière du coût de la consultation?
Alors, il n'y a pas besoin d'être adressé par son médecin traitant. Il n'y a pas besoin d'ordonnance non plus. Et évidemment, maintenant, les mutuelles, beaucoup de mutuelles prennent en charge complètement ou en partie les séances d'ostéopathie. Il faut vraiment se renseigner auprès de sa mutuelle parce que chaque mutuelle est différente et ne rembourse pas au même taux. Mais il y a une aide financière aujourd'hui.
Concernant les femmes atteintes d'endométriose, à quel moment faut-il consulter un ou une ostéopathe et comment se déroule une première séance ?
Alors, il y a deux manières de consulter une ou un ostéopathe, de manière préventive ou de manière curative. Donc, en prévention, quand ça va plutôt bien, qu'on n'a pas trop de douleur, mais qu'on a envie de maintenir cet état-là, avant de tomber justement dans la douleur aiguë et dans la perte de capacité physique. Et en curatif, quand justement ça va pas, on est en pleine crise et que là, il faut absolument aider, et ben voilà, on va venir aussi en curatif. Donc c'est plutôt, voilà, à quel moment on sait plutôt comment on a envie de gérer sa santé. Est-ce qu'on est plutôt sur du préventif ou est-ce qu'on attend d'être pas bien pour aller consulter? Il n'y a aucun meilleur moment qu'un autre. Hein. Si on est plutôt dans le curatif, on est dans le curatif, il n'y a pas de mal à ça. Et ta deuxième partie de question...
C'était le déroulement d'une première séance.
Alors, lors d'une première séance, il y a un entretien qui est assez long. On appelle ça l'anamnèse. Donc, on écoute la patiente, son motif de consultation, son historique. On focalise surtout les questions, du coup, quand il y a de l'endométriose, sur son parcours thérapeutique. Hein. En général, il y a quand même un parcours thérapeutique semé d'embûches. Et donc là, c'est aussi important d'écouter les mots de la patiente parce que souvent, il y a beaucoup d'émotionnel qui est lié à ce parcours thérapeutique. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans notre approche ensuite du corps. Ou si on voit que le parcours thérapeutique a été tumultueux et qu'elle est passée par beaucoup de choses, on lui a très peu expliqué ce qu'elle avait, et ben nous, c'est aussi le moment de dire « bon, voilà, moi, je vais vous expliquer ce que je vais faire », et d'être plus dans l'explication, plus dans le... Essayer de créer un lien, quoi, parce que parfois, elles arrivent, elles sont un peu... elles sont sur les nerfs, quoi, parce qu'elles ont beaucoup... essuyer de mauvaises réflexions et elles sont souvent pas tout à fait en confiance. Donc la première séance d'ostéopathie aussi pour l'endométriose, c'est de remettre un cadre de confiance. Donc pendant cette première partie-là de l'anamnèse et ensuite pendant la séance. Souvent, le travail physique est un peu moins long, on va dire, parce qu'il y a eu un grand début de consulte sur les échanges, sur ses historiques, son passif. Et souvent, en général, on repropose une deuxième consultation 3 semaines, 1 mois plus tard pour travailler un peu plus sur le physique et voir déjà les effets de la première séance.
D'accord, ouais, il y a déjà des nœuds à démêler de tout le parcours, l'errance diagnostique aussi qu'on connaît pour l'endométriose, pour pouvoir bien connaître aussi la patiente, quoi. D'accord, ok. Et quels sont les motifs de consultation que des femmes atteintes d'endométriose qui viennent te voir au cabinet?
Alors, il y a des motifs, on va dire, assez fréquents, assez réguliers, comme les douleurs pelviennes, les douleurs de règles, les douleurs que l'endométriose peut entraîner au niveau du dos. Elle peut entraîner des douleurs neuropathiques dans les jambes aussi, parfois. Et donc, voilà, c'est toutes ces douleurs-là que peut entraîner l'endométriose qui sont des motifs de consultation. Ensuite, on a aussi des motifs de consultation un peu moins traditionnels quand on a des formes d'endométriose aussi un peu moins traditionnelles, comme par exemple ma patiente qui avait des atteintes pulmonaires et qui a fait des pneumothorax à répétition. Et du coup, pour cette patiente-là, ces motifs de consultation, c'est plutôt des douleurs dorsales et des douleurs de thorax qu'on vient traiter par rapport à ses antécédents de pneumothorax à répétition à cause de son endométriose.
Donc majoritairement, c'est des motifs de consultation liés à de la douleur.
Oui.
Qui va être en fonction un peu des lésions, du parcours de la patiente, en fonction de des atteintes qui peuvent être pelviennes, comme le dos, comme les jambes. Du coup, l'ostéopathie agit sur toutes ces formes de douleurs différentes.
Exactement. J'ai aussi oublié de préciser qu'on travaille aussi sur les troubles digestifs, en fait, alors qu'ils ne sont pas forcément liés à la douleur, mais par exemple des épisodes de constipation, diarrhée, que peut présenter aussi une femme atteinte d'endométriose.
D'accord. Donc, il y a un travail sur l'abdomen aussi. Oui. D'accord.
C'est ça.
Ok. Et du coup, comment l'ostéopathie, quelles sont les techniques manuelles justement pour agir sur ces douleurs, ces troubles du transit?
Le but premier de l'ostéopathie, c'est de redonner de la mobilité à une structure qui en a perdu. Et donc, dans l'endométriose, en général, à cause des lésions, l'utérus et toutes les structures qu'il y a autour de l'utérus, qui le relient au squelette, qui le relient à la vessie, au rectum, perdent de la mobilité parce que les lésions saignent, ensuite elles cicatrisent. En cicatrisant, parfois, elles créent des petites adhérences. Alors là, c'est là où il faut mettre des guillemets aux adhérences. On parle des adhérences vraiment « bas grade », entre guillemets, où, parce que les chirurgiens, chirurgiennes, quand ils parlent d'adhérences, ils parlent vraiment d'adhérences qui ont besoin d'être opérées. En ostéopathie, on travaille sur un autre type d'adhérence qui n'a pas besoin d'être opérée, mais qui fixe l'organe dans sa mobilité et qui l'empêche de bien bouger en fonction de la journée, du moment du cycle, et qui va du coup favoriser plus de douleurs. Par exemple, les dyspareunies profondes. L'utérus est figé par ses lésions, notamment souvent au niveau des ligaments utérosacrés. Il n'a pas la capacité de bouger comme il devrait pendant une pénétration. Et du coup, ça vient créer une douleur au niveau du col de l'utérus.
D'accord. Donc vraiment, c'est jouer sur la mobilité des organes avec des techniques du coup douces, c'est ça
Tout à fait. Alors, il y a des techniques de mobilisation, en fait, au niveau abdominal. Donc, on est juste au-dessus de l'os du pubis, qui est l'os qui délimite le bassin au niveau de l'abdomen. Et on vient, voilà, au contact de l'utérus, de la vessie, on vient les mobiliser pour créer du mouvement et redonner de la mobilité à cette région-là.
D'accord. Et donc vous, justement, en posant vos mains et en auscultant l'examen clinique de la patiente, vous pouvez voir du coup ces défauts de mobilité des organes et agir dessus, quoi.
Voilà, exactement. En général, on a des zones de tension qui correspondent à des zones, une zone de l'ovaire, par exemple. Et c'est rigolo parce que souvent, on trouve un côté qui est plus tendu que l'autre et ça correspond au côté de la lésion qu'il y a sur le ligament utérosacré ou sur l'ovaire. C'est-à-dire que c'est des lésions qui sont profondes, mais leur perte de mobilité, leur fixation, leur fixité entraîne autour d'elles tout un environnement qui est aussi figé. Et nous, au niveau abdominal, on le ressent en fait, cet environnement figé. Et donc, via le travail abdominal, on peut relâcher à distance les tensions qu'il y a autour de l'ovaire, du ligament utérosacré, et redonner cette mobilité à cette région.
D'accord, ok. Donc, ouais, c'est vraiment un travail très spécifique. Et donc, du coup, c'est pendant tes formations spécifiques, justement, que tu as appris à complémentaires, que tu as appris à bien, du coup, connaître tout ce qui est les structures gynécologiques et tous ces impacts pour pouvoir agir dessus.
Alors, pendant les formations complémentaires, effectivement, on prend vraiment le temps de travailler plus spécifiquement sur ces régions-là. Et ensuite, c'est vraiment le travail aussi en cabinet et à force de voir des femmes qui ont des atteintes, on reconnaît en fait la tension sous la peau. Vraiment, l'expérience en cabinet aide beaucoup. On va dire que la formation complémentaire permet d'avoir des connaissances et d'être un peu plus en confiance, mais c'est vraiment l'expérience en cabinet qui donne la main et l'expérience de la main.
D'accord. Et puis une certaine expertise. Du coup, il y a vraiment une notion de, justement, oui, avec l'expérience et les connaissances, une notion d'expertise de ces pathologies-là qu'on retrouve, nous, du coup, sur Mapato. C'est vrai que quand les gens nous recommandent des soignants, ils recommandent des soignants pour une pathologie, pour l'endométriose. On a très souvent, donc on a de nombreuses recommandations pour l'endométriose et notamment d'ostéopathes. Vraiment expert de cette pathologie, on comprend mieux maintenant avec tes explications pourquoi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, encore il y a une dizaine de jours, j'avais une patiente qui venait, grâce à l'annuaire Mapato, me consulter dans le 78. Donc vraiment, c'est un annuaire qui fonctionne et qui oriente et qui aide les patientes à aller vers quelqu'un qui connaît la pathologie de l'endométriose, parce que voilà, la main thérapeutique ostéo, on l'a tous, mais l'expertise de connaître l'endométriose et le vaste champ des atteintes, ça, il y a moins de personnes qui sont vraiment formées sur ça.
Ouais, c'est top hein, pour nous de savoir que justement ça fonctionne et que des patientes puissent bénéficier de soins avec des professionnels comme toi grâce à Mapato, c'est vraiment super. Donc concernant cette technique d'ostéopathie, qu'est-ce qu'on peut en espérer du coup comme bénéfice et puis quelles sont aussi les limites justement de la prise en charge de l'ostéopathie pour la prise en charge de l'endométriose?
Donc les bénéfices qu'on peut essayer d'en tirer, c'est la réduction des douleurs. Donc les douleurs de règles, les douleurs que les patientes elles vont avoir même en dehors de leurs règles, les troubles du transit qui sont parfois associés. Vraiment c'est ça, c'est diminuer les douleurs pour que la patiente elle puisse par exemple diminuer ses prises d'antidouleurs, ses médicaments, être moins longtemps alitée, moins longtemps allongée, qu'elle puisse retourner travailler par exemple une journée plus tôt ou pouvoir ressortir un peu plus avec ses amis. Voilà, améliorer vraiment le confort de vie. Et on n'est pas contre, c'est quand même super chouette de pouvoir diminuer la prise de chimie grâce à des thérapies manuelles. Donc les limites de l'ostéopathie, du coup l'ostéopathie ça ne soigne pas l'endométriose et ça accompagne en fait, ça c'est vraiment très important, mais on doit travailler main dans la main avec la médecine traditionnelle, avec la médecine allopathique pour le coup, au bénéfice de la patiente. Donc on n'est pas là pour dire grâce à l'ostéopathie vous n'aurez plus besoin de prendre de pilules, grâce à l'ostéopathie vous n'aurez pas besoin de vous faire opérer, s'il y a besoin de faire une opération, l'ostéopathie elle accompagne la patiente avant et après son opération, par exemple. Et voilà, vraiment, c'est les limites ou, par exemple, les limites des adhérences. Nous, on va travailler sur un type d'adhérence qui est vraiment bénin, on va dire, bénigne, mais qui entraîne des inconforts pour la patiente. Et il faut laisser les grosses adhérences cicatricielles aux chirurgiens-chirurgiennes. Voilà, chacun sa place. C'est hyper important pour travailler main dans la main avec les médecins.
D'accord, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y a un moment du cycle où c'est plus approprié comme d'avoir des soins d'ostéopathie?
En général, moi j'évite de voir mes patientes pendant leurs règles parce que c'est un moment où elles ne sont pas confortables, elles sont souvent douloureuses et une séance d'ostéopathie, on n'en a pas parlé, mais ça fait réagir le corps. En général, pendant 24-48 heures, après une séance d'ostéopathie, elles peuvent ressentir des douleurs. Donc, ce n'est pas vraiment le but de faire flamber une douleur qui est déjà présente parce qu'elle a ses règles. Il vaut mieux qu'elles viennent en dehors de cette période-là.
D'accord. Donc, il peut y avoir un petit effet rebond
Exactement.
Suite à une séance. D'accord. D'accord. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ça passe les bénéfices après, quoi.
Exactement. Des choses qui arrivent souvent, malheureusement, entre guillemets malheureusement, mais des patientes que je suis depuis longtemps qui m'envoient un petit message qui me disent « Ah, cette fois-ci, je sens que ça joue sur ça, j'ai un peu de douleur quand j'urine alors que j'en avais pas avant, mais finalement, 48 heures après, hop, cette douleur-là, elle s'estompe et globalement, ça va mieux. » Mais voilà, c'est hyper important de rassurer aussi la patiente quand elle sort de sa séance et de lui dire 24-48 heures où le corps, il va travailler, il va un peu se réajuster, il va sentir que il y a plus de mouvement, donc hop, il en profite. Et ça peut tirer un peu sur les structures.
Ah oui, ouais, le fait de de travailler sur la mobilité des organes, forcément, du coup, ça se remet en place tranquillement, quoi.
Ça travaille, et quand ça travaille, on le sent, quoi. Au niveau ligamentaire, ça tire, c'est normal.
D'accord. C'est important de le savoir, oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut proposer comme suivi? Est-ce qu'il y a une fréquence qui est conseillée pour venir en consultation, soit pour justement prévenir les douleurs quand elles ne sont pas encore trop marquées, ou alors pour consolider les effets des séances d'ostéopathie?
Alors pour moi, le suivi, il est vraiment individuel et propre à chaque patiente. Il y a des patientes qui vont aimer venir régulièrement, tous les mois et demi, tous les 3 mois, et d'autres patientes qui vont vraiment attendre, comme je disais tout à l'heure, qui vont vraiment attendre d'avoir mal pour venir et qui vont être plutôt dans le curatif. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a une pathologie comme l'endométriose, ça peut être vraiment bénéfique d'avoir un suivi, de pas aller une fois un an puis 3 ans plus tard. C'est vraiment sur son hygiène de vie, sur son confort de vie, ça peut vraiment lui apporter d'être suivi un peu plus fréquemment.
Donc, il y a vraiment un rôle de. Enfin, le rôle préventif est quand même intéressant, quoi.
Tout à fait.
D'accord. Ça peut prévenir des grosses crises douloureuses comme, ouais, comme toute technique.
Mais disons que l'endométriose, ça reste une pathologie qui est inflammatoire, donc qui réagit fortement au stress, par exemple. Et l'ostéopathie, ça a aussi une action, relaxante, mais on agit de manière plus sur le long terme, sur cet état d'anxiété qu'on peut avoir. L'ostéopathie, ça a une action de calmer, mais pour ressentir vraiment cette action de calme et du système nerveux qui descend d'un étage, en général, il faut avoir un suivi un peu plus régulier.
Oui, et puis comme tu dis, la première séance, il y a de mettre en confiance, voilà, ça reste du relationnel, on reste un être humain face à un être humain, et donc il faut le temps un petit peu de s'apprivoiser, de se connaître, et puis c'est une thérapie manuelle, donc on laisse les mains de l'ostéopathe poser sur nous manipuler un petit peu aussi, donc on a besoin de se sentir aussi effectivement en confiance, quoi.
Tout à fait. Créer une alliance thérapeutique, on appelle ça.
Ouais,
l'alliance thérapeutique, c'est vraiment entre la patiente et son praticien, praticienne, voilà, que ça fonctionne. Parce que cette alliance, c'est la clé du succès thérapeutique. S'il n'y a pas cette connexion entre les deux, ça ne marchera pas.
Ouais, d'accord. Et justement, tu parles d'alliance thérapeutique. On parle beaucoup chez Mapato d'expérience du patient réussi. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce qu'un patient satisfait d'une consultation avec son soignant ? Est-ce que tu as des critères ? Est-ce que tu as des indicateurs ?
J'avais compris, dans ta question, j'avais compris quelle est pour moi une expérience réussie en tant que soignante. Mais...
Alors justement, c'est intéressant ça, ton roman, parce que est-ce que c'est pas un petit peu la même chose du coup ?
Si, je pense effectivement que ça alimente les deux. Donc l'expérience réussie pour moi, c'est vraiment que le lien justement thérapeute-patiente se soit créé, qu'il y ait la confiance qui se soit installée, l'écoute. Parce qu'en général, quand il y a la confiance, l'écoute, il y a aussi le lâcher prise. Et c'est comme ça que la patiente, elle se relève de la table et elle est sonnée, elle se dit « Oula, c'était dur aujourd'hui !» Mais parce que justement, il y a eu la confiance installée, elle a pu lâcher prise sur la table, son corps a lâché prise et il y a des choses qui se sont passées physiquement.
D'accord. Et justement, le fait que la patiente se relâche complètement, c'est plus facile du coup ? La thérapie, on parle toujours d'une thérapie avec les mains. Donc, est-ce que c'est plus facile de travailler justement sur le corps quand le corps est complètement relâché ?
Tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie souvent des premières choses à faire, c'est de mettre un peu le doigt sur la tension du corps au repos et de voir qu'en fait, cette patiente qui est allongée sur la table, elle pense qu'elle est détendue, mais elle ne l'est pas. Et voilà, souvent, ça sous-entend aussi d'autres choses. Des passifs, des antécédents, parfois de violence. Et il faut aussi travailler sur ces couches-là avant de pouvoir travailler vraiment sur le mécanique. On ne peut pas aborder un corps de manière mécanique. Allez, on va faire ça, on va bouger tout ça, et hop, ça ira mieux. Parce que souvent, il y a des défenses qui se sont installées par-dessus et il faut d'abord lever les défenses pour pouvoir ensuite arriver sur vraiment le côté anatomique, mécanique. C'est pour ça que je te parle d'alliance et de confiance, de lâcher prise, parce que on touche pas un corps comme on veut, on le manipule pas comme on veut. Hein. C'est lui qui nous laisse le faire.
Ouais, donc il y a toutes les barrières un peu psychologiques pour pouvoir accéder au corps. Mais c'est intéressant de savoir que justement l'ostéopathie, ce n'est pas que le travail sur le corps, c'est le travail aussi sur l'esprit, et que ça permet justement ce lâcher prise aussi. Psychologique en plus du corps, c'est chouette.
Oui, c'est vraiment sur les mémoires physiques des émotions, quoi. Y a des émotions qui, même si par exemple, il y a des patientes qui font des suivis psychologiques aussi, parce que voilà, elles ont envie d'aller mieux, elles vont lever des traumas psychologiques, mais il y a toujours un ancrage physique de l'émotion. Et donc, ça, c'est important de le travailler, de le libérer aussi, par exemple, tu vois.
D'accord. Ouais, c'est vraiment un métier qui est très varié, du coup.
Ouais.
C'est vraiment intéressant.
Oui, On peut très bien venir nous voir pour quelque chose de très mécanique. Je me suis bloqué le dos en faisant du bricolage parce que j'ai fait trop de bricolage. Mais parfois, il y a et moi, c'est cela que j'aime le... Enfin, c'est pas bien de dire que j'aime le plus, mais c'est justement ces patientes ou ces patients qui viennent et qui ont plein de couches par-dessus et qu'il faut aussi travailler sur ces couches-là, qui est hyper intéressant, je trouve.
Ouais, le corps qui parle, quoi.
Exactement.
Ok, d'accord. Manon, on va parler un petit peu de tes actualités pour terminer.
Ouais.
Bon, tu as ton compte Insta qui fonctionne super bien, que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Ostéo Féminin, qui est vraiment hyper bienveillant, hyper doux, plein de conseils et plein d'informations, justement, notamment sur l'endométriose. Et il me semble que tu as une petite annonce à nous faire aussi.
Tout à fait. Je suis l'autrice d'un livre qui sortira... entre mai, je pense au courant mai, la date n'est pas encore sortie, un livre qui va s'appeler « Un corps plus libre », qui va donc parler de santé féminine et de tout ce qui, de tous les tabous et les injonctions sociales qui pèsent autour de notre santé féminine.
Eh bien, écoute, super. Eh ben, on ne manquera pas d'en parler sur Mapato. Vous pourrez, dès qu'il sortira, on le référencera pour celles que ça intéresse.
Oui, et en plus, je n'ai pas précisé. Excuse-moi, je te coupe. C'est un livre qui sort chez Hachette Pratique, aux éditions Hachette Pratique.
Ok. Et un livre qui est illustré, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui. Super illustré par l'autrice. L'illustratrice Franche Hirsute, qui est aussi sur Instagram.
Ouais, ok. Eh bien, super. Eh bien, écoute, Manon, je te remercie beaucoup pour ta participation. Je te souhaite une belle continuation dans cette belle pratique et l'ostéopathie qu'on peut compter dans cette prise en charge globale de l'endométriose. Merci beaucoup et puis je te souhaite une belle fin de journée.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique, comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.